France Culture.
Le journal Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Les premières mises en examen depuis la mort du militant nationaliste Quentin Derenque, mise en examen pour homicide involontaire requise pour 7 hommes, dont Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Précision dans un instant de Noah Marchais. Dernière réplique politique en date, les propos du chef de l'État qui demande à tous les partis de, je cite, faire le ménage dans leur rang. Fin de citation, décryptage. Jeanne Serrin. Également au sommaire de cette édition, la gêne des sages de la rue Cambon, l'actuel ministre des Comptes publics, qui va bientôt prendre la présidence de la Cour des comptes, pourrait valider le budget qu'elle a défendu il y a peu. L'arrestation de l'ex-prince Andrew, soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles à Jeffrey Epstein lorsqu'il était émissaire au commerce, correspondance de Londres de Gaël Joly. La disparition d'une figure de l'altermondialisme, Suzanne George, membre fondatrice d'Attaque, est morte à l'âge de 92 ans. Vous l'entendrez évoquer au micro d'Emmanuel Laurentin les ressorts de son engagement. Et puis à la fin de cette édition, Maire pour quoi faire, le rendez-vous hebdomadaire de France Culture consacré aux élections municipales. On parle aujourd'hui d'eau et d'assainissement. Dossier signé Stéphane Robert. L'enquête sur les circonstances de la mort du militant identitaire Quentin Derenque, il y a une semaine à Lyon, a progressé. Quant aux responsabilités des 11 personnes interpellées mardi soir et hier matin dans 5 départements, la Haute-Loire, la Drôme, l'Aisne, l'Isère et le Rhône. 7 d'entre eux sont soupçonnés d'avoir un rôle direct, les 4 autres d'avoir tenté d'aider les autres à se soustraire aux recherches. Bonsoir Noah Marchais.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Noah, 7 suspects sont donc déférés en ce moment même en vue de leur mise en examen.
Oui, le parquet a requis leur mise en examen pour homicide volontaire, violence aggravée et association de malfaiteurs. Le procureur de Lyon, Thierry Dran, a fait le bilan des auditions des 7 personnes présentées à un juge.
2 d'entre elles refusaient de s'expliquer. Les autres connaissaient leur présence sur les lieux. Et certains admettaient avoir porté des coups à Quentin Derenque ou et à d'autres victimes. En revanche, ils contestaient tous une intention homicide.
Ces 7 hommes ont entre 20 et 26 ans, majoritairement étudiants, mais aussi employés dans le privé et le dernier sans emploi. Parmi ces mis en cause, Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Ils ont tous un casier judiciaire vierge, sauf pour 2 personnes. La première,
déjà condamné pour violence et usage stupéfiant par le tribunal pour enfants, et pour l'autre par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol et port d'armes. Par ailleurs, il apparaît qu'un des mis en cause fait actuellement l'objet d'un contrôle judiciaire à la suite de faits de violence aggravés en raison de la race, l'ethnie ou la religion.
3 d'entre eux ont aussi déclaré faire partie de la mouvance d'ultra-gauche. Ces 7 suspects vont être placés en détention provisoire. 4 autres personnes ont été relâchées, soupçonnées de recel de malfaiteurs. Elles seront présentées plus tard à un juge. Le procureur précise tout de même qu'il reste des personnes impliquées à identifier.
Merci à vous, Noah Marchais. Ce samedi à Lyon, environ 1000 militants d'ultra-droite comptent rendre hommage à la victime. Grégory Doucet, le maire de la ville, a demandé l'interdiction de ce défilé. De son côté, la préfecture du Rhône affirme être toujours, je cite, en phase d'évaluation. 1500 antifascistes entendent, eux, organiser une contre-manifestation. La mort de Quentin Derenque ne cesse d'alimenter rixes verbales et philippiques dans l'arène politique. Relevons toutefois que le président de la République aura repris à son compte les éléments de langage privilégiés par le Premier ministre avant-hier à l'Assemblée nationale quand il prit à partie Mathilde Panot, la chef de file des députés LFI, à laquelle il lança « Faites le ménage au sein de votre parti ». Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir.
Jeanne, mais cette fois, Emmanuel Macron a choisi de renvoyer dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national.
Oui, sans jamais les citer explicitement. Et alors qu'il s'était abstenu de tout commentaire depuis son arrivée en Inde, le chef de l'État est finalement sorti de sa réserve en se rangeant derrière les mots de son Premier ministre, mais s'adressant pour sa part aux 2 extrêmes.
Aucun groupe mettant en œuvre de la violence n'a de légitimité dans la République. Et je le dis avec beaucoup de force. Et donc oui, les partis extrêmes doivent faire leur ménage. L'extrême gauche en l'occurrence, mais les autres partis extrêmes et l'extrême droite aussi, qui a dans ses rangs parfois des militants qui justifient l'action violente.
Le président français qui a ensuite répondu aux récentes déclarations du chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mais là encore sans le nommer.
À chaque fois qu'il y a des gens qui vous expliquent qu'ils ont mis en place des milices pour faire de l'autoprotection, qu'il y a telle ou telle chose parce qu'il y aurait de l'autre côté un discours de violence et qu'il la légitime, ils ne commettent pas simplement une faute politique, ils commettent une faute morale et ils créent les conditions de ce qui arrive.
Appelant au calme dans cette affaire, le chef de l'État a enfin saisi l'occasion pour recadrer Giorgia Meloni, qui s'est fendue hier d'un tweet dans lequel la chef du gouvernement italien déplore, je cite, « la mort d'un jeune homme emporté par un climat de haine idéologique qui traverse plusieurs pays ». Réponse d'Emmanuel Macron.
Je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres.
Et de conclure que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Un commentaire qui a laissé Giorgia Meloni stupéfaite, selon les mots de son entourage.
Merci Jeanne Serrin. L'Europe et son cahier des charges budgétaires. Ces fameux 3% de déficit du produit intérieur brut, boussole soumise aux États membres qui fixent le cap, déterminent bien des arbitrages, même si cela reste un cap plus ou moins lointain. La Cour des comptes ne manque jamais d'y faire référence. Quand il s'agit de la maîtrise des dépenses publiques, par exemple, sa dernière recommandation en date en témoigne. La rue Cambon juge en effet crucial que la France respecte son objectif de réduire le déficit à 5% en 2026, mettant en garde contre un non-respect de la cible qui alimenterait la défiance des marchés vis-à-vis de notre dette publique. Rien de très étonnant, alerte récurrente, dirons-nous. Embarrassante, en revanche, la perspective de voir s'installer à la présidence de la Cour des comptes, celle qui a chapeauté l'édification du dernier budget. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Mathieu.
Camille, en effet, Amélie de Montchalin, actuelle ministre des comptes publics, pourrait, oui, valider sa propre copie.
Oui, c'est même ce qui devrait arriver dès la mi-avril, traditionnelle certification des comptes de l'État pour l'année écoulée. C'est bien Amélie de Montchalin qui devrait y présider, certifier donc des comptes publics dont elle était la ministre tout au long de cette année 2025. Ce sera complètement inédit comme situation dans l'histoire de ce contre-pouvoir qu'est censé être la juridiction financière. L'actuelle première présidente par intérim, Karine Cambi, ne nie pas le problème.
C'est une institution qui est très attachée à son indépendance, la Cour des comptes. C'est important, la crédibilité de la Cour, elle repose sur son indépendance. Tout le monde en est parfaitement conscient.
Mais Karine Cambi relativise. La première présidente, dit-elle, ne participe pas à l'élaboration des rapports de la Cour. Elle les présente seulement. Et puis, il existe des procédures internes auxquelles Amélie de Montchalin va devoir se plier dès son arrivée rue Cambon.
Le collège de déontologie recevra la première présidente à son arrivée. Il examinera avec elle en détail ses conflits d'intérêts et à ce moment-là, elle pourra prendre toutes les dispositions prévues. On a quelquefois dans les chambres des magistrats qui participent pas aux délibérés, qui se déportent parce que ils connaissent, par exemple, le responsable de la politique publique qu'on est en train d'étudier. Bon, ils ne participent pas aux délibérés, donc c'est quelque chose d'assez commun.
Alors pour Amélie de Montchalin, vu ses fonctions ces dernières années au cœur de la décision budgétaire macroniste, le périmètre de ses déports pourrait être très large. Sa nomination très politique vient en tout cas appuyer une critique régulièrement renvoyée à la Cour des comptes, accusée d'être devenue avant tout autre chose, la gardienne du temple d'une économie politique forcément néolibérale.
Merci Camille Magnard. Il est 18h08, vous écoutez le journal de France Culture. Une onde de choc salutaire de part et d'autre de la Tamise. Beaucoup de Britanniques semblaient en effet parier sur une impunité de la famille royale. Les voilà comme soulagés par l'arrestation de l'ex-prince Andrew en raison d'allégations selon lesquelles il a transmis des informations confidentielles à Jeffrey Epstein lorsqu'il était émissaire au commerce. La justice doit suivre son cours, tranche le roi Charles III, au chevet de la réputation, de la probité de la famille royale. Notre correspondante au Royaume-Uni, Gaëlle Joly, s'est rendue à Buckingham Palace, où la nouvelle a certes surpris les Britanniques, mais Andrew n'avait déjà plus bonne presse.
We hope he has a good one.
Devant les grilles de Buckingham Palace, Jeffrey est venu célébrer l'anniversaire d'Andrew avec des ballons dorés. Le prince déchu a été arrêté le jour de ses 66 ans. Phoebe et sa mère Nathalie, fans de la couronne, sont sous le choc.
We didn't think it would happen. It's a massive shock.
On ne pensait pas que ça arriverait. C'est un choc terrible et je pense que ça va ruiner la famille royale. Malheureusement, il n'y aura plus de fans de la couronne. C'est fini.
Just like royal fans will be no more, I don't think.
It just happened like that, like with no explanation.
C'est arrivé comme ça, d'un coup, sans explication, sans rien, sans avertissement. C'est arrivé comme ça et j'ai l'impression que tout le monde est désemparé, que tout est détruit, que tout est brisé, tout est fini. Paul est venu d'Écosse pour une virée touristique. Lui s'attendait à cette arrestation avec sa femme, il s'en même soulagé.
Je m'y attendais, enfin, c'était logique. Et je ne suis pas mécontent, la presse en parlait depuis des semaines et puis c'est arrivé, donc pas une grande surprise.
surprise.
C'est bien que personne ne soit au-dessus des lois. Donc oui, un choc, mais une bonne nouvelle.
Pour elle, tant que la couronne laisse la police enquêter sans entrave, comme l'a souhaité le roi Charles III, alors la monarchie survivra.
Gaëlle Joly à Londres. Rien de moins que la résolution des conflits dans le monde. Ronflante ambition assénée par Donald Trump il y a des mois, lorsqu'il a promis d'échafauder son Conseil de la paix, Board of Peace en anglais dans le texte. Structure imaginée dans un premier temps pour la reconstruction de la bande de Gaza qui a tenu sa première réunion cet après-midi. Beaucoup d'alliés traditionnels des États-Unis ne participent pas à ce conseil dont la mission reste floue et qui se tient au moment où l'armée américaine se déploie massivement au Moyen-Orient en prévision d'une possible attaque contre l'Iran. Franck Madvon nous appelle de Washington.
La photo de famille n'est pas à la hauteur des attentes, mais Donald Trump ne trahit aucune déception. Il se réjouit de réunir autant d'alliés à Washington, et tant pis si plusieurs pays ont envoyé des émissaires, ou si d'autres, comme la France ou le Canada, n'ont envoyé personne. Le président américain remercie les dirigeants qui l'entourent, l'Argentin Milei, le Hongrois Orban, ou encore le patron de la FIFA, Gianni Infantino, dont personne ne sait vraiment quel est le rôle dans cette instance. Donald Trump se félicite que la guerre à Gaza soit terminée, qu'il n'y ait plus d'otages dans le territoire. Nous avons la paix au Moyen-Orient, dit-il, notamment grâce aux frappes contre les sites nucléaires iraniens en juin dernier. Voilà qui nous ramène à l'actualité et au déploiement des forces américaines dans la région.
Comme vous le savez, l'Iran est un point chaud en ce moment. De bonnes discussions sont en cours. Il s'est avéré difficile au fil des ans d'avoir un accord significatif avec l'Iran. Nous devons avoir un accord significatif, sinon de mauvaises choses arrivent. Cette fois, nous devrons peut-être aller plus loin ou pas. On aura peut-être un accord, vous le saurez probablement dans les 10 jours.
Donald Trump dévoile donc une nouvelle échéance de 10 jours, mais il est difficile de savoir si l'on peut s'y fier. Le président américain donne souvent des délais, des ultimatums rarement respectés. On retient qu'il brandit indirectement la menace d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient lors de la première réunion de son Conseil de paix.
Avancée législative, mais résistance sociale. Le président argentin Javier Milei fait face à sa 4e grève générale en un peu plus de 2 ans de mandat. Grève visant sa réforme de dérégulation du travail qui chemine au Parlement. La mort de Suzanne George, membre fondatrice et présidente d'honneur d'ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières, qui a annoncé son décès à l'âge de 92 ans. La militante altermondialiste franco-américaine a aussi milité chez Greenpeace et participé au lancement en France d'Extinction Rébellion. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages, notamment sur les ravages de l'ultralibéralisme. Elle était entrée sur le tard en militantisme, comme elle l'expliquait en septembre 2020 à Emmanuel Laurentin, dans le temps du débat sur France Culture.
Moi, je n'ai commencé qu'à 31 ans et c'est parce que la guerre du Vietnam me rendait absolument malade que mon pays d'origine pouvait faire de telles horreurs. Et c'est là où je me suis lancée, mais pas toute seule. J'ai toujours été dans une organisation. Et l'organisation me soutenait, mais je soutenais aussi l'organisation. Les ONG n'étaient pas énormément connues à l'époque. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque. Mais ATTAC a été très importante dans mon évolution. Mais avant ATTAC, il y a eu d'autres moyens de lutter. Et je l'ai toujours fait avec le seul instrument que j'avais, qui était le fait que je savais écrire à peu près, et que j'aimais faire la recherche. Et j'ai fait des recherches et j'ai écrit des livres sur des sujets estimés parfois compliqués, mais que je rendais aussi simples que possible. Et c'est cela qui m'a lancé, parce que le premier était sur un sujet très important à l'époque, qui était la faim dans le monde. Et finalement, ce premier livre, à ma grande surprise, a été un succès.
Vous vous dites, en fait, il faut changer l'ordre des cercles qui nous gouvernent. Il y a 4 cercles concentriques, selon vous, et le premier qui nous gouverne, c'est l'économie. Il faut changer cet ordre.
La finance.
La finance, voilà, la finance qui nous gouverne.
La finance décide de tout pour l'économie, qui est le deuxième cercle à l'intérieur de ce premier. Finance, économie, les deux guidant la société et imposant à la société comment vous allez vivre, que ça vous plaise ou pas, vous allez vivre comme ceci et comme nous vous dictons. Et puis, tout dernier cercle, moins important pour le monde actuel, c'est le climat. Il n'y a pas de pression suffisante pour que ce soit la première cercle, parce qu'il faut inverser ces cercles pour que ce soit climat, société, économie et puis finance en dernier.
Suzanne George, dont on a appris le décès aujourd'hui, extrait proposé par Olivier Vogel, issu d'un entretien donné à Emmanuel Laurentin en 2020 sur France Culture. Quelques mots de la météo de demain matin. Fréquentes averses au sud de la Garonne et du Massif central et de Rhône-Alpes au quart nord-est. De la neige en moyenne montagne. Ce journal a été préparé avec Alix Forgeau, à la technique Ange Duc.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire ? Aujourd'hui, le rendez-vous hebdomadaire de France Culture, consacré aux élections municipales, on parle d'eau et d'assainissement. La fourniture d'une eau potable aux habitants et l'assainissement des eaux usées sont des services publics essentiels rendus à la population et ils relèvent de la compétence des communes. La loi NOTRe du 7 août 2015 a tenté de transférer la gestion de ces compétences aux intercommunalités, mais il est apparu après quelques années que c'était difficilement applicable, en particulier dans le monde rural. Exemple, dans le département du Cher, où s'est rendu Stéphane Robert.
Nous sommes à Bingy-sur-Cran, près de Bourges, dans le département du Cher.
Bingy, on a 700 habitants.
Denis Durand est le maire de cette commune depuis 1983.
Et on a 60% des habitations qui sont reliées au tout à l'égout. Donc il n'y a que l'habitat qui est un peu dispersé, qui n'est pas relié au tout à l'égout. Et là, c'est des assainissements individuels qui servent d'assainissement pour ces habitations-là.
Pour l'assainissement des eaux usées, un réseau souterrain de 10 à 15 km de canalisation relie les habitations de la commune et elles arrivent toutes au même endroit, à la station d'épuration communale construite en 1998 près de la rivière, le Cran.
Les eaux usées sont par gravitation. Donc, il va de l'endroit le plus haut vers l'endroit le plus bas. C'est-à-dire qu'ici, on se trouve dans le val de la commune, près de la rivière, ce qui permet que les eaux épurées retournent directement dans le Cran. Ah ben, c'est tout ça, là. C'est tous les égouts, les WC. Et puis après, les boues sont stockées dans le silo là-bas.
Ça, c'est le bassin de décantation, alors ?
Oui, c'est un bassin de décantation et d'aération. En injectant de l'air, on développe des bactéries aérobies qui détruisent la matière organique et la transforment. Une fois qu'on a dégradé toutes les matières fécales, elles tombent par gravité, elles tombent en dessous et retournent à la rivière. Et puis les boues sont épandues chez les agriculteurs, hein, puisque ça sert d'engrais. Donc il y a un plan d'épandage qui est géré aujourd'hui avec la Chambre d'agriculture sur un certain nombre d'agriculteurs volontaires qui étendent les boues une fois les récoltes faites. Donc au mois d'août, septembre, il y a une dizaine de tonnes par an, ou 10 ou 15 tonnes par an.
Pour l'adduction d'eau, c'est un autre réseau qui approvisionne les habitations de la commune. Un réseau relié à une source qui ne se situe pas à Bingy-sur-Cran.
On n'a eu qu'une petite source qui produit peu et notre commune fait venir de l'eau d'une autre commune qui est située à 10 km d'ici.
C'est quelle commune ?
C'est la commune de Roy-les-Bourdelin qui a des très bonnes sources et qui alimente 27 communes aujourd'hui. Il y a un puits de forage qui va chercher l'eau et cette eau est pompée et propulsée dans un château d'eau qui est sur un point haut. Elle est traitée aussi, on met des gouttes de chlore. Hein. Et puis, le château d'eau, après, par gravité, elle approvisionne les maisons, toutes les maisons du réseau. Et donc, dans le syndicat, on a même trois châteaux d'eau aujourd'hui, parce qu'il a pris de l'ampleur.
À Bingy, comme dans la plupart des communes françaises, 99% des habitations sont reliées au réseau d'eau potable. Un raccordement qui n'est pourtant pas obligatoire.
J'ai deux habitations qui n'ont jamais voulu être liées à l'adduction d'eau. Dans les deux cas, ils ont un puits et ils s'approvisionnent. Et pourtant, c'est des maisons qui sont dans le bourg. La canalisation passe devant chez eux.
Les deux réseaux, adduction d'eau et traitement des eaux usées, sont gérés en délégation de service public pour un coût d'environ 150 euros par an et par habitation. Il y a 10 ans, en 2015, la loi NOTRe, qui prétendait faire le ménage dans le maquis des compétences attribuées aux collectivités locales, a tenté d'imposer le transfert de l'eau et de l'assainissement aux intercommunalités, une règle à laquelle le maire de Bingy-sur-Cran, Denis Durand, a refusé de se conformer, parce que, dit-il, pour l'adduction d'eau potable notamment, c'était une aberration.
Les bassins versants ne correspondent pas au périmètre des communautés de communes. Là, on a un périmètre de 27 communes. Pour ce qui est de notre syndicat, il traverse 5 communautés de communes différentes. Pourquoi couper ce syndicat qui marche très bien en 5 collectivités différentes ? C'était complètement absurde. Pour l'assainissement, c'est encore pire, surtout en zone rurale, puisqu'on n'aura jamais de station d'épuration intercommunale. Le mètre du réseau d'eau usée coûte très cher, puisque c'est des grosses canalisations, ça marche par gravité. Donc il faut vraiment que les deux communes voisines aient les bourgs qui soient accolés l'un à l'autre pour avoir une station d'épuration intercommunale, mais sinon il n'y aura jamais de station d'épuration intercommunale.
Finalement, 10 ans plus tard, cette disposition de la loi NOTRe a été supprimée par le Parlement, parce que malgré l'obligation, des milliers de communes refusaient toujours de s'y conformer.
Et cette suppression de l'obligation de transférer la compétence eau et assainissement aux intercommunalités est intervenue l'été dernier en 2025 sous l'impulsion et sous l'autorité de la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Françoise Gatel. Elle a beaucoup bataillé, d'abord en tant que sénatrice, puis en tant que ministre, contre cette aberration administrative.
Moi, je pense que c'est un exemple de malfaçon de la loi. L'objectif est remarquable. Se partager l'eau et assurer la qualité, on est tous d'accord. Sauf que la réponse qu'on apporte n'est pas la bonne, puisqu'on vous dit, vous allez gérer l'eau à une échelle administrative. Sauf que l'eau n'a jamais coulé dans un périmètre administratif. La rivière, elle coule selon un bassin versant, et vous pouvez avoir besoin de travailler avec des communes d'un département différent, etc. Donc, la loi a prétendu qu'elle était plus forte que la nature. Donc, il faut que le législateur soit modeste, ambitieux dans son objectif, qualité de l'eau, partage, mais que les solutions, on les travaille à l'échelle du territoire.
La fourniture d'eau potable à la population est un service essentiel. Est-ce qu'il est aujourd'hui correctement assuré? Et est-ce que ça représente des difficultés dans certains territoires?
Alors, l'approvisionnement, on va dire, en métropole, est assuré. Tout le monde a un robinet. Mais on a aujourd'hui des évolutions à entreprendre, parce que les réseaux d'eau, c'est-à-dire les tuyaux, sont parfois très anciens, nécessitent d'être remplacés. Et on a aussi, sur nos réseaux, beaucoup de fuites. Dans certains territoires, les fuites d'eau des réseaux, ça peut atteindre 30% du flux de l'eau. Donc, il y a beaucoup d'argent à mettre. L'État est très engagé auprès des collectivités par l'Agence de l'eau. On accompagne les collectivités. Mais il faut que chaque maire mesure sa capacité à pouvoir, à l'avenir, avoir un réseau sécurisé. Certains réseaux ont 35 ou 40 ans.
Il y a de très nombreux contrôles effectués. Or, on trouve régulièrement des pollutions. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à fournir une eau potable de qualité à l'ensemble de la population, compte tenu de la surexploitation des terres, compte tenu de ce qu'on peut déverser avec la production industrielle dans nos rivières?
Alors, l'eau potable est extrêmement contrôlée dans notre pays. Mais effectivement, on sait qu'il y a parfois ce qu'on appelle des pollutions. Il n'y a pas que les pollutions agricoles auxquelles on pense très souvent. Les agriculteurs, je vois dans ma Bretagne, les agriculteurs ont fait des efforts considérables sur la conquête de l'eau et l'économie de consommation. Il peut y avoir parfois des pollutions à caractère économique, ça peut être industriel, puis il y a des pollutions domestiques. C'est pourquoi chaque citoyen est responsable de son assainissement, c'est-à-dire l'eau du robinet, vous avez l'eau de la douche, vous avez l'eau des toilettes. Elle va parfois à la rivière, comment elle est traitée, comment vous rejetez une eau qualitative. Et la France est un peu en retard sur la réutilisation de ce qu'on appelle les eaux usées ou traitées. En Espagne, où l'enjeu de l'eau, parce que c'est un pays qui a des températures plus fortes que les nôtres, la rareté de l'eau a amené ce pays a développé des process assez remarquables de réutilisation de l'eau et de dire que on n'est pas forcément obligé de mettre de l'eau potable partout, mais selon l'usage, il doit y avoir une norme sanitaire qui garantit à chacun de nous la sécurité de cette eau et qui protège notre environnement à tous.
Précisément, chaque Français consomme en moyenne 150 litres d'eau potable par jour. Or, pour son hydratation, un Français n'en ingère qu'une infime partie, quelques litres. Est-ce qu'il est nécessaire de conserver une même exigence de qualité pour l'ensemble de l'eau fournie à la population?
Alors, c'est une excellente question. Mais moi, je comprends la prudence que l'on doit avoir, parce que la population qui peut être très attentive aux économies d'eau, elle ne comprendrait pas des accidents sanitaires. Je pense qu'il faut qu'on ait un regard sur l'eau qui change. C'est-à-dire, dans notre pays, l'eau, c'est pas un sujet, quoi. Vous tournez le robinet, il y en a, vous n'avez jamais manqué d'eau. Là, aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'on manque d'eau, qu'elle est rare, qu'elle est chère, et peut-être qu'on n'a pas besoin d'utiliser de l'eau potable pour toute notre vie quotidienne. Et il faut qu'on ait un usage judicieux.
Voilà, la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Françoise Gatel, au micro de Stéphane Robert, maire pour quoi faire, à retrouver sur notre site internet et sur l'application Radio France.